Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi, comme librairie. Ô poétesse, il y a dans vos mots, dans vos livres, toute la puissance du monde. Celle qui nous bouleverse et nous inspire, nous relève et nous fait avancer. Ô poétesse, votre poésie est brûlante et tendre, douce et violente. Ô, comme je vous aime. Pour le printemps des poétesses, votre librairie chérie met sur votre route, le temps de 4 épisodes, Rim Batal, Lisette Lombé, Anne Sexton et Nawel Ben Krayem. C'est parti. Épisode 1, Rim Batal et sa poésie impolie. Bienvenue à l'affranchi pour cette première rencontre pour notre printemps des poétesses. Je suis particulièrement contente de l'inaugurer avec toi, Rim. Bienvenue.
Merci, Soazic. Bonsoir.
Notre rencontre est plutôt très jolie, je trouve, parce que ça vient d'un énorme coup de cœur. Et j'aime tant en parler et le dire dès que j'en ai l'opportunité. On peut même dire qu'on m'a vue à la télé pour en parler.
Et ça, oh oui.
C'était quand même un coup de force.
J'étais très flattée d'être citée par toi.
J'ai donné des directives bien précises. Il fallait qu'on n'oublie pas les poétesses dont je voulais qu'on parle. Puisque ce livre formidable, c'est celui-ci, Lettres aux jeunes poétesses, un projet que j'ai suivi depuis sa création, puisque c'est Aurélie Olivier, l'excellente Aurélie Olivier, qui en a eu l'idée et qui... vous a invité en tant que poétesse, poète, poétesse, à écrire une lettre. Et donc, je suis plusieurs aventures autour de ce livre. On a reçu certaines des poétesses, donc, et puis on vous a accompagnées sur différents lieux. Et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois, semaines, pour le festival Dire.
Tout à fait.
Et c'était se dire... Mais il y a Mine de rien qui arrive.
Exactement.
Et donc Mine de rien, c'est ton nouveau livre paru en poche poésie au Castor Astral. Mine de rien, c'est au final pas du tout rien. C'est énorme puisque tu es sur un recueil de plusieurs de tes livres. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment on en arrive à créer un poche directement de plusieurs livres ?
Alors, c'est une collection récente que le Castor Astral a mise en place après le grand succès qu'a connu le livre de Cécile Coulon, « Les ronces ». Paru dans la même maison, et donc ils se sont dit, on poursuit l'aventure en faisant un poche, en fait. Ce qui est très courageux de la part d'une moyenne maison d'édition en termes de taille, hein, pas de qualité. Et à côté de ça, ils ont publié pour lancer la collection le livre de Thomas Vineau aussi. Et le livre de Thomas Vineau, pareil, est une anthologie personnelle. Il regroupe plusieurs textes de livres parus déjà, ainsi que des inédits. Et c'est ce qui s'est passé pour le mien. Quand ils ont, après le succès de ces deux premiers ouvrages parus en poche poésie chez le Castor Astral, ils ont décidé de poursuivre l'aventure avec différents formats. Et la deuxième salve, c'est donc Mine de rien et La poésie est invincible de Abdelatef Labi, qui est un poète marocain, une immensité, un monument. Donc le livre de Abdelatef Labi contient des inédits. Alors pour le mien, il s'agit d'extraits de mes 5 premiers livres parus aux éditions Lanskin et aux éditions édition Supernova, ainsi que des inédits à la fin qui s'appellent « Embrasser avec la langue ».
Qui est une partie que j'apprécie particulièrement. Ce qui est absolument génial, c'est que ta poésie, elle est multiple. Et que c'est pas anodin, en fait, que d'une certaine manière, il y ait tous ces livres, parce que j'ai l'impression que tu, à chaque fois, écris différemment. T'as un autre endroit, en fait, de création, d'émotion, d'histoire racontée, de narration. Et j'ai lu ton livre 2 fois, à des endroits différents de fatigue ou de disponibilité. Et j'ai apprécié pouvoir être surprise par une relecture où la première fois, j'avais pas vu un trait d'humour ou une autre signification, parce qu'il faut quand même avouer que tu joues avec nos pieds quand même pas mal. Tu joues avec nous, mais ce qui est hyper enthousiasmant, parce qu'on se dit, et tu en parles notamment dans Lettres aux jeunes poétesses, ta lettre aux jeunes poétesses, de la façon en fait dont la poésie pourrait avoir parfois une signification assez simple ou de jeu de mots, c'est Audre Lorde qui parle de ça notamment, alors qu'en fait... Tout le terrain de jeu, il peut être vraiment dans ces doubles tranchants, en fait, d'aller, comme tu le fais, vers l'humour, le tragique, le quotidien, le sensuel, l'érotique, le trash, le violent, le... Enfin, t'arrives à mettre une multitude de facettes et c'est hyper appréciable, en fait. Enfin, j'ai l'impression que vous pourrez te lire à jamais... enfin, tout le temps et découvrir d'autres facettes de ton écriture.
Écoute, je te remercie pour cette lecture parce que c'est une lecture rêvée finalement. Ce que je dis souvent, c'est que la meilleure lecture qu'on puisse avoir, c'est celle d'un traducteur ou d'une traductrice, parce que c'est les personnes qui soulèvent toutes les petites pierres, tous les petits cailloux d'un texte pour en relever tous les sens possibles. Et moi, j'aime bien jouer avec ça, avec la polysémie de certains mots, de certaines expressions que soit je détourne, soit je prends parfois au premier degré aussi. Mmh. Et j'aime beaucoup quand les personnes arrivent à les lire et les relire pour laisser un peu infuser un texte aussi. Et en effet, j'utilise beaucoup l'humour parce que j'aborde souvent des problématiques un peu lourdes et que c'est important d'en rire aussi. Enfin, le rire fait partie de la vie, c'est ce qui la rend envisageable. Et je pense qu'on peut rire de tout. Ça dépend de qui et de quand. Voilà. Tout le monde ne peut pas rire de tout. On peut rire de tout. Et j'apprécie particulièrement quand les personnes qui lisent arrivent à le percevoir. Parce que oui, la vie est compliquée. Il y a énormément de choses qui sont difficiles à vivre, etc. Mais on peut aussi traverser la vie avec humour et pas détachement, mais au moins une certaine distance qui permet d'apprendre, qui permet de grandir, qui permet de, je sais pas, de s'amuser un peu.
Ton acte d'écriture, parce que là, on comprend toute ton envie, en fait, d'apprécier cette vitalité qui est dans la poésie, de transmettre tes histoires, etc. Mais ton acte d'écrire, la poésie, il s'est construit comment? Parce que je suis toujours assez curieuse, en fait, de comprendre. Alors, pas forcément, j'écrivais des poésies quand j'étais petite et au fur et à mesure, c'est devenu une obsession ou j'en sais rien. Mais plutôt de se dire comment viscéralement, parce que pour moi, la poésie, c'est toujours très viscéral. En tout cas, celle qui me plaît. Il y a quelque chose qui vient tellement de l'organique, de se dire on met tout sur la table, on essaye de travailler ça et à un moment donné, on le donne aux autres à lire. Mais est-ce que tu te reconnais dans ce côté organique ou tu as un autre endroit d'écriture?
Si, je me reconnais dans ce côté organique. Enfin, je pense comme toutes les personnes, j'écris depuis toute petite, mais je suis pas ni la seule, ni la première, ni la dernière. Parmi les poètes et poétesses, mais aussi parmi dans le lectorat, je pense que toute personne, le premier truc qu'on fait, c'est dessiner et écrire, et notamment des poèmes, en fait, parce que c'est assez instinctif, finalement, d'en écrire, d'essayer de formuler des choses, de trouver la manière la plus juste et la plus belle aussi, peu importe ce qu'on met dans le beau, en fait, dans ce que ça signifie. Et on essaie de transmettre, on a envie d'exister d'une façon ou d'une autre, et l'écrit, en tout cas, pas forcément l'écrit, mais même la poésie orale, hein. Essayer de composer, de choisir les mots, de les agencer entre eux, de les broder, d'en faire une sorte de chose qui a du sens, qui nous ressemble. Je pense que c'est quelque chose d'assez commun et qui, pour certaines personnes, devient une nécessité vitale. D'autres personnes arrivent à trouver d'autres lieux, d'autres territoires pour exister, et tant mieux. Mais pour moi, ça s'est fait comme ça. Et puis, petit à petit, mes premiers livres avaient pour but premier l'expression, je pense. Et puis, de fil en aiguille, de livre en livre, j'ai commencé à quand même investir un peu plus la forme et essayer de jouer avec ça, tout simplement, parce que j'aime bien la dimension jeu dans l'écriture, dans le dire, dans la performance aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on peut remarquer dans ce livre, d'ailleurs, mine de rien, les différentes formes que j'ai pu investir, expérimenter, comme les extraits des livres, en fait, sont dans le livre agencés de manière chronologique. C'était un choix aussi, parce que j'avais envie qu'on puisse constater assez facilement l'évolution de mon écriture et ce que ça peut donner petit à petit si on s'accroche et si on essaye d'en faire quelque chose qui c'est très pédant ce que je vais dire, mais quelque chose qui compte.
Mais non,
oui que ça compte.
Mais oui, c'est ça. En même temps, c'est fou comment on peut parfois se sentir gêné d'utiliser ce genre de phrases, alors qu'en vrai, si on écrit, si on veut partager, enfin, j'espère que on a cette notion-là de il faut que ça compte en fait, faut que ça ait une place, que ça soit marqué. Et c'est vrai que le fait d'éditer, je reviens toujours à Lettre aux jeunes poétesses, mais je trouve que c'est une très belle façon en fait de te rencontrer avec cette lettre, de comprendre en fait ton endroit de création et ce que ça veut dire pour toi d'écrire de la poésie, d'être publié en poésie, de faire de l'argent avec de la poésie, tous ces trucs, toutes ces notions qui peuvent parfois être considérées comme pas à la bonne place puisqu'on parle de création, d'art. Et on se dit mais non en fait, enfin c'est ça aussi les revendications maintenant, c'est de dire écrire c'est pas anodin. Ça compte dans vos histoires et ça compte dans nos lectures, en fait.
Oui, ça compte. Et puis, à partir du moment où on décide d'écrire et d'en faire un livre, surtout, donc de imprimer sur du papier avec des personnes qui sont impliquées, des éditrices, des personnes qui vont diffuser, porter le livre avec vous, c'est important aussi de le vendre. Et c'est parce qu'on a décidé d'en vivre quelque part. Donc, ce discours de « Ok, je fais des livres, mais je m'en fous des ventes, je m'en fous de comment ça va être reçu. » Pour moi, c'est complètement absurde et paradoxal. Autant envoyer le PDF à ses copains et les copines, en fait. Enfin, pourquoi on va déranger des gens? Ou autant la dire aussi. Autant la partager dans la vie de tous les jours. Lire. Pourquoi on publie un livre? C'est aussi parce qu'on a envie de le vendre. On a envie de donner de l'importance à ce qu'on fait d'une manière autre que juste l'écrire, parce que ça peut être très très important d'écrire pour soi. Quand on écrit pour soi uniquement, c'est un terrain de liberté immense, un outil incroyable pour s'épanouir, pour s'affirmer. Mais si on veut publier, il faut prendre en compte la réception aussi. Il faut prendre en compte le lectorat et le respecter. C'est une façon de respecter le lectorat que de se dire « Ok, je veux faire un livre qui compte, je veux le travailler au mieux, je veux le porter au mieux, je veux qu'il... » Je parle souvent au jeu et je parle souvent d'expérience personnelle parce que j'ai que le corps qui est le mien et que la vie qui est la mienne et je ne veux pas parler de choses que je ne maîtrise pas forcément. Donc je parle de ça, mais je l'adresse à des personnes. Donc il faut les prendre en compte, il faut leur parler. Il faut en faire quelque chose que d'autres puissent s'approprier aussi.
Ouais, et j'imagine que l'équilibre doit être un petit peu perturbant aussi, parce que dans ta façon d'écrire peut être quand même assez parfois dérangeante. Il y a des côtés qui mettent un peu mal à l'aise, des mots qui arrivent comme ça. T'as parfois en fait une poésie qui va se ressembler sur quelques lignes, et puis paf, en fait, tu nous surprends avec quelque chose de plus violent, de plus cru, de plus incisif. Dans mine de rien, tu as un portrait, une carte d'identité poétique à la fin. Et je pense que c'est dans ce paragraphe-là où on parle de ta poésie comme étant impolie. Et je trouve ça génial comme formulation, parce que c'est exactement ça. L'impolitesse, c'est quelque chose qui te met mal à l'aise, en général, si tu es poli de base. Parce que ça change les conventions, ça change les habitudes, ça change un ton ou quelque chose. Et d'une certaine manière, en tant que lectrice, à certains endroits, j'ai été malmenée parce que j'ai pas tout compris tout de suite, parce qu'il a fallu que je reprenne le fil, que je me dise « Ah, mais on a changé de voix, là c'est peut-être plus elle en fait qui parle, c'est peut-être un homme ou une femme, ou on ne sait pas trop qui ou... ». Tu vois, tu nous malmènes quand même à certains endroits.
Tant mieux, je suis ravie d'entendre ça, parce que moi aussi, à titre personnel, en tant que lectrice d'abord, parce que j'ai été lectrice d'abord et que je le suis toujours, ce sont les livres qui m'ont dérangée, c'est-à-dire pas rangée, qui m'ont le plus fait grandir, qui m'ont construite. Que ce soit en termes de propos, de contenu ou de forme aussi. C'est des livres, d'abord, j'ai connu, malheureusement, comme beaucoup de personnes, des livres écrits uniquement par des hommes. J'ai été nourrie par ça. Donc, il y a eu Bataille, il y a eu Sade qui m'ont énormément bousculée dans, à la fois en termes de forme, mais aussi en termes de propos, en termes de morale, en termes d'éthique. Et ensuite, j'ai découvert des autrices aussi qui m'ont bousculée d'une autre façon. Je pense là tout de suite à... j'arrive pas à trouver son nom. Beloved Jazz Toni Morrison.
Mon Dieu.
Toni Morrison, comment elle nous mène sur des territoires très très limites, sur des frontières à la fois éthiques et morales. Marine Diaye, les circonvolutions de son écriture, comment elle nous balade. On sait pas où on va avec elle. Et ça m'intéresse, c'est très beau. C'est, moi, en tant que lectrice, j'ai envie d'être surprise. Je suis pas particulièrement friande de récits de suspense parce que pour moi, j'arrive à le deviner la suite assez facilement. Alors que ces deux autrices particulièrement m'emmènent dans des territoires que j'aurais pas du tout soupçonné en ouvrant le livre au départ. Et c'est très important, c'est essentiel même, c'est vital. Sinon, je sais pas, on s'emmerde.
Je suis bien d'accord, hein, nous on milite pour les littératures qui
et c'est dérange. En fait, c'est un procès qu'on m'a beaucoup fait de la part des mauvaises personnes. Hélas, quand j'ai commencé à publier en poésie mes premiers livres, j'ai circulé dans des lieux qui n'étaient pas forcément pour moi. Et il y avait énormément de, désolé de classer encore une fois les gens, mais d'auteurs blancs d'un certain âge, d'une certaine culture, d'une certaine classe sociale, qui me reprochaient d'être crue et violente uniquement, qui ne voyaient ni l'humour, ni la nécessité de ce que je faisais, ni le propos en fait, qui s'arrêtait à, qui me classait déjà comme poétesse de l'érotique, alors que c'est pas forcément le cas en fait. Je parle de sexualité, mais plutôt d'un point de vue politique. J'essaie de décortiquer certaines choses, de les questionner, de les explorer, mais j'adorerais, hein, mais j'écris pas de livres érotiques à proprement parler, en fait. Enfin, on n'a pas envie de se toucher en lisant mes livres, en fait. Mmh. Mais j'aimerais bien, je rêve d'écrire des livres comme ça, mais hélas, j'en suis pas là. Peut-être un jour, quand j'aurai fini de nettoyer derrière moi. Donc, il y a eu cette réception-là qui me gênait beaucoup et qui a aussi transformé mon écriture. Je me suis dit, ok, si on me lit comme ça, soit je suis dans le mauvais endroit, soit n'utilise pas les bons mots ou les bonnes formules. Et c'est ce qui m'a fait bouger aussi de maison en maison et aussi de forme en forme.
Est-ce que l'évolution, en fait, de l'accueil de la poésie par les libraires, par les lecteurs, lectrices, ne permet pas aussi une certaine liberté nouvelle? Parce que j'ai l'impression que, enfin, nous, on fait de la poésie à la librairie depuis toujours. C'est une librairie qui a été construite sur le théâtre et la poésie à la base. Donc l'intérêt est vif depuis longtemps. Mais malgré tout, ça fait que vraiment quelques années où j'ai l'impression qu'on a un foisonnement de langues et de slam publié. Il y a encore pas longtemps, on n'avait jamais vu ça, en fait, du slam publié, par exemple. Mmh. Quelque chose de l'oralité, de la force vive, en fait. Et je me dis, est-ce que c'est pas quelque chose qui va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, l'époque, la résonance fait que peut-être il y a plus de possibilités pour les auteuristes d'être plus vastes dans leur style, dans leurs tentatives, dans... Est-ce que tu as ressenti à un moment quand même de bascule dans ton travail où c'est sortir un petit peu de cet endroit de niche, où qui lit encore de la poésie en France, et de là de se dire, hey, mais en fait, tout s'est passé, enfin, Rupicor, elle a fait un succès mondial sur Instagram, et on a l'impression qu'il y a toute une génération qui a découvert la poésie, quoi.
Oui, alors pendant longtemps, le slam était très méprisé par les milieux de la poésie éditée, publiée, donc qui passe par des maisons, etc. Et avec l'essor un peu des réseaux sociaux, qui ont beaucoup de défauts, mais qui ont cette force-là que de porter des voix qui ne passaient pas forcément par le filtre des maisons d'édition. Et donc, pas mal de maisons se sont rendues compte que il y a une attente, il y a une soif de poésie, et une soif de poésie traite de problématiques contemporaines avec un langage qui est accessible finalement. Parce que pendant longtemps, la poésie existait, c'est vrai, mais elle était un peu trop peut-être expérimentale ou intellectuelle. Elle n'était pas forcément accessible à tout le monde. Le public ne s'y retrouvait pas. Et du coup, on en a déduit un désintérêt général pour la poésie, ce qui était faux. Mmh. Avec Rupicor, après le succès d'Amanda Gorman... Tout le monde s'est rendu compte que, en fait, si, il y a un lectorat potentiel. Et c'est là qu'on a un peu changé. Enfin, pas mal de maisons se sont tournées vers les poésies plus orales. Et tout de suite, en publiant des personnes qu'on ne pensait même pas, qu'on n'imaginait même pas en livre, on a vu leur succès. Et là, on s'est dit, tiens, en fait, ça fonctionne. Et à côté de ça, en tant que poétesse, moi, j'avais déjà publié avant, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je pouvais m'autoriser. et que je ne m'autorisais pas avant. Parce que moi aussi, y a la poétesse, mais il y a la lectrice aussi. Et j'ai vu plein de voix différentes s'exprimer, exister, qui n'étaient pas validées par justement ces personnes qui m'invalidaient un peu au départ et qui me toléraient à peu près dans le milieu de la poésie, dans le livre. Et finalement, je me suis dit, tiens, en fait, je peux parler de ça aussi. Ça tient la route, je peux parler de cette manière, je peux écrire de cette manière-là. Donc, ça a été bénéfique également pour des personnes qui existaient déjà en écriture. Mmh. Ça nous a libérés.
Oui, il y a une question d'accepter de prendre des risques, peut-être, d'une certaine manière.
Il y a une question de risque, mais c'est surtout, au-delà du risque, de la question du risque, parce que moi, c'est pas quelque chose qui me faisait peur, c'est juste se dire, c'est possible, c'est faisable, ça compte aussi, en fait, de parler de cette manière, d'écrire de cette manière, de dire ces choses-là. Et il y a pas que ça, il y a aussi tous les mouvements MeToo, tous les mouvements de libération de la parole, MeToo inceste, etc., qui ont fait que énormément de choses se sont libérées à travers l'écriture comme outil, mais ça fait exister des voix, ça fait exister des propos, des démarches qu'on ne pensait pas pouvoir exister en poésie avant. Il y avait des choses qui existaient dans les milieux militants, dans la prise de parole, parfois dans le roman, mais plus difficilement. Et maintenant, en poésie, on peut explorer absolument tout, on peut dire ce qu'on veut, et c'est ce qu'on a compris récemment. Enfin, c'est récent, ça fait quelques années, 2 ans, même pas.
Ah oui, totalement. Il y a quelque chose de très... d'un renouveau, en fait. Là, quelque chose comme si, en fait, il y avait une sorte de mue de laisser derrière les vieux mecs blancs...
de les larguer.
Intellectuels bourgeois. Derrière. Hein, et de dire, oh, vous êtes lourd, laissez derrière. Ouais, et de laisser, en fait...
Et lourd et génération. Pas juste, oui, en fait. En plus, il y avait un manque de... Pas de justice, mais de justesse.
Ouais.
C'est que le lectorat... c'est aussi énormément de femmes et de personnes non-binaires qui n'étaient pas prises en compte au moment de l'écriture. Moi, je me souviens aussi, je suis née au Maroc et j'ai grandi au Maroc. Il n'y avait pratiquement pas de librairie quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. Et donc, les livres auxquels j'avais accès existaient en deuxième main chez les bouquinistes. Et c'était que des classiques français et que des hommes. Que des hommes blancs, cis. Et donc, c'est ce qui m'a nourrie pendant longtemps. Le jour où j'ai pu lire des autrices, mais la respiration que ça a été, c'est waouh, en fait. Il y a des personnes qui pensent comme moi, que je peux dire ça, ce que je vis là est une référence aussi, est valide aussi, peut exister en littérature. Alors qu'avant, c'est très étrange de dire ça, mais vraiment, j'avais la conviction que j'allais écrire depuis toute petite. Vraiment, pour moi, c'était quelque chose qui allait faire partie de ma vie pendant longtemps. Je savais pas comment, mais j'avais cette idée comme ça d'enfant un peu où j'allais devenir écrivain. Je me disais écrivain parce que je n'imaginais même pas qu'on pouvait être autrice ou écrivaine en fait. Et du coup, je pensais que j'allais devenir écrivain et donc je lisais des écrivains et quand je lisais ce que ces écrivains écrivaient, c'était que des problématiques d'écrivains et d'hommes. Et du coup, je me suis construite un peu comme un homme, finalement. Je me disais, je sais pas... et on me reprochait souvent de réfléchir comme un mec. Mais c'est tout ça pour dire à quel point ça nous forge, ça nous construit, ça nous transforme ce qu'on lit, ce qu'on absorbe comme propos, comme référence, finalement. Et il y a eu un point de bascule quand j'ai commencé à avoir accès à d'autres livres, notamment le premier qui m'avait vraiment énormément bouleversée, qui arrive à un moment incroyable de ma vie où j'en avais absolument besoin. C'était un livre de Virginie Despentes qui c'était le jour de l'inauguration de la première FNAC au Maroc. Et la FNAC, c'était la première librairie où on pouvait trouver des livres de la rentrée littéraire, par exemple, donc des contemporains, des contemporaines. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, on peut écrire comme ça, on peut dire ça, on peut faire ça. Et c'est très oral, parce que c'était King Kong Theory, c'est un essai, mais en même temps, c'est très accessible. J'étais trop heureuse de, comprendre tout ce qui se passait dans le livre, puis ça me parlait, et ça a tout de suite, ça m'a questionnée, ça a transformé ma manière d'écrire, parce que j'écrivais toujours, mais bon, après, c'était des trucs très niais, très, moyenâgeux, poésie très 19e-iste. Et finalement, j'avais accès à quelque chose d'aujourd'hui qui s'écrit comme on écrirait aujourd'hui, et voilà.
D'une sorte de révolution, quand même.
Complètement, mais c'est important. Et là, je dis
Virginie Despentes,
Virginie Despentes, parce que c'est aussi ce qui a traversé la Méditerranée, qui est arrivé dans cette FNAC-là et qu'on a estimé vendable au Maroc à ce moment-là. C'était il y a une dizaine d'années, un peu plus. Après, quand je suis venue ici en 2013, là, je me suis ouverte à beaucoup plus de choses. Hein. J'habitais dans la librairie. c'était un grand moment.
Mais on l'entend et on le lit, tu es une poétesse féministe. Et on le lit bien dans les thématiques, en fait, qui filoutent dans ton écriture ou qui sont... clairement nommé. Ce qui m'a d'autant plus intéressée, c'est que tu as pu parler de Sylvia Plath. Alors, je sais plus dans quel livre. Parfois, c'est mon problème, c'est de plus savoir les références. Mais et ça me faisait penser aussi à Anne Sexton, dont on va faire une rencontre sur cette poétesse américaine dans quelques semaines, qui était une amie lointaine en fait de Sylvia Plath. Elles ne sont pas sur les mêmes continents. C'était un petit peu compliqué, mais qui avait ces toutes les deux les mêmes problématiques de remettre au cœur de leur poésie, les règles, la maternité, le corps en fait des femmes et la façon dont il est malmené, violenté, et toutes les questions évidemment de postpartum qui n'étaient même pas envisagées de 3 secondes à cette époque-là, puisqu'on est dans les années 60, et quelque chose en fait que j'ai retrouvé dans ton écriture, dans la façon dont tu parles de ton lien à ta mère, de ton lien à tes enfants, de ton lien à ton corps, à la façon dont, enfin, il y a quelque chose j'ai trouvé en fait d'une filiation avec ces poétesses là, et je me suis même dit dans une des toutes dernières poésies j'ai vraiment senti en fait le côté très tragique que j'avais pu lire chez Sylvia Plath. C'est quelque chose qui m'a vraiment... j'ai eu besoin de reprendre une respiration derrière parce que les émotions étaient vraiment montées très vite. Et ça m'a fait hyper plaisir de ressentir ça parce que je suis une énorme fan de Sylvia Plath et d'Anne Sexton. Et je me disais, c'était un endroit que j'avais pas encore forcément vraiment retrouvé. Ce type-là de poésie où il y a quelque chose qui marque la chair en tant que femme, qui est une chair marquée. Vraiment quelque chose qui tient bon, qui lutte, mais qui est un endroit vraiment très spécifique de l'expérience d'être femme avec un utérus, avec des seins, avec des corps qui sont modelés par beaucoup de personnes et aussi notamment par la mère, par tout ce lien-là. Juste pour mon kiff personnel et pour tout le monde évidemment, mais tout le monde. Ton rapport à Sylvia Plath, est-ce que c'est une poétesse de ce fait que tu as découverte en arrivant en France ?
Assez tard, oui. Ah oui, je l'ai découverte en arrivant en France, oui. Dans la collection Gallimard. Oui, je l'ai découverte en arrivant en France assez tard, comme beaucoup, beaucoup de poétesses, en fait. J'ai été nourrie à Éluard, à Apollinaire, à Aragon, en fait. C'est parce que c'est tout ce qu'on pouvait trouver. Sylvia Plath, Sexton, je connais moins.
Mais en même temps, elle vient tout juste d'être traduite. Il n'y avait pas grand-chose de disponible en France et les éditions des femmes viennent de refaire... ce fameux recueil, Tu vis ou tu meurs.
Mais même, je veux dire, même des classiques de la littérature écrite par des femmes, je les ai découverts hyper tard. Enfin, je continue à les découvrir et le jour où j'en ai pris conscience, je suis tombée des nues. C'est vraiment un monde qui s'est ouvert à moi. Je pense notamment à toutes les personnes ont lu hyper tôt Une chambre à soi de Virginia Woolf. Moi, je l'ai découverte hyper tard. J'ai dû la lire il y a 7 ans.
Je suis pas sûre que tout le monde l'ait lu si tôt. Hein. Non, mais vraiment, enfin, en vrai, en France où on a une culture très patriarcale qui va pas être celle qui nous transmet à l'école les textes de femmes.
Oui, certes, mais enfin,
ça demande une curiosité. Non, mais pour te rassurer que même nous, je veux dire, même ça a mis du temps à aller trouver
une
aussi.
Une chambre à soi, c'est vraiment le blockbuster quand même de Virginia Woolf.
Tous les jours, j'ai des clientes qui l'achètent pour la première fois.
Ah oui.
Mais oui. C'est pas encore un.
Il faut... Ça me rassure.
Ça
me rassure, mais ça m'inquiète aussi, en fait.
Mais c'est que le combat est toujours vif, en fait.
Ouais.
Faut pas prendre pour acquis la visibilité des autrices.
Complètement.
C'est encore un travail.
Et leur diffusion à l'international aussi, parce qu'elles peuvent exister aujourd'hui, ici en France, parce qu'on va en parler, on va les traduire, etc. Mais est-ce qu'elles filtrent partout dans le monde ? Est-ce qu'elles vont arriver ? Moi, je serais très heureuse le jour où je vais découvrir ces mêmes autrices poétesses chez un bouquiniste au Maroc, en fait. Je pense que ça transformerait des vies. Et maintenant, même aujourd'hui, quand j'écris, et quand je pense à la réception que j'ai envie d'avoir, je pense à moi quand j'avais 13 ans et que j'allais chez le bouquiniste. Je me dis, j'ai envie de toucher ces personnes qui ont 13, 14 ans et qui ont envie de lire autre chose et qui ont envie de comprendre aussi, parce qu'on a envie de, je sais pas, d'explorer, d'aller le plus loin possible en littérature, dans la forme, dans ma, je sais pas quoi. Mais à un moment, je pense que si j'étais tombée, je sais pas, sur une Michèle Butor à 13 ans, j'aurais pas capté. ça m'aurait peut-être pas touchée, ça m'aurait pas fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Et donc je garde toujours en tête cette lectrice de 13-14 ans qui serait dans un petit bled, je sais pas où dans le monde. Moi typiquement, parce que j'ai grandi dans une ville de vraiment ce qui est la taille d'un village en France, hein, très très loin dans le sud du Maroc, et c'est ce qui arrivait jusqu'à moi, quoi. Donc j'ai envie de ça, j'ai envie de toucher aussi loin, j'aimerais bien.
Mais c'est ce qui est d'autant plus magnifique avec la poésie, c'est que je pense que ce sont systématiquement et obligatoirement des rencontres. Mmh. C'est-à-dire que le livre, autant un roman, tu peux le subir et l'histoire t'est transmise, etc., que la poésie, c'est comme s'il y avait une sorte de connexion, tu vois, un truc qui te dit... ah oui, en fait, on était fait pour se rencontrer, tu me lis, je te transmets ce que j'ai à dire. Et il y a quelque chose de beaucoup plus virulent, en fait, dans la relation à la découverte.
Oui, oui, c'est vrai. Enfin, même moi, quand je lis des romans, parfois, soit je suis captée, je suis pas captée, le style me plaît ou pas, mais enfin, sans plus, parfois, au pire, je m'ennuie en lisant un roman et tout. Alors que la poésie, c'est beaucoup plus viscéral, en fait. Il y a des textes, je les lis, ça me... tout s'explose dans ma tête et tout. Et d'autres où j'aime pas au point que j'ai de la nausée, en fait. Ouais. J'ai envie de bégère. Ça me... Vraiment, ça me... C'est pas anodin, en fait. Il n'y a pas des livres qui me laissent genre indifférente. Je peste quand je lis un texte qui me plaît pas. Je suis là, ah putain, mais comment t'as pu faire ça? Mais n'importe quoi. Genre, c'est que t'as mis genre silence 4 fois, le silence du monde. C'est chiant, franchement. Tu te prends pour qu'est-ce qui se passe, là? Et vraiment, je suis énervée. Voilà, alors que le roman, on vous raconte une histoire. Enfin, ça dépend. Enfin, parfois, il y a des styles de dingue qui te prennent aussi. T'as une langue particulière que tu rencontres. Mais ouais, c'est pas pareil qu'en poésie. C'est vraiment, c'est toujours des rencontres heureuses ou conflictuelles, en fait. Mais c'est toujours des rencontres.
Mais c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion, de quelque chose de ressenti qui vient directement. Ces questions-là, moi, souvent, je leur dis, quand on parle de poésie, je parle de vitalité, parce que c'est vraiment ça, c'est du vivant. Ce qu'on est en train de lire, c'est du vivant. Et donc, c'est une expérience de lecture qui, enfin, que je ne peux que encourager à chaque fois, parce que je me dis, mais même quelqu'un, quelqu'une qui n'aime pas lire ou qui n'a pas rencontré encore la littérature, ce qui arrive quand même encore beaucoup, parce que les expériences qu'on en a étant jeunes sont désastreuses, en fait. Enfin, il faut vraiment le vouloir pour aimer la littérature suivant les programmes scolaires.
Et particulièrement la poésie, oui.
Et particulièrement la poésie. Et donc, de se dire que la poésie et le théâtre, qui pendant si longtemps ont été des langues reniées, considérées comme d'une différente classe sociale, qu'il fallait tout ce bagage intellectuel pour le comprendre. Alors qu'en vrai, c'est ce qu'il y a de plus simple à lire. On est dans le dialogue, on est dans la transmission et ce vivant-là, en fait. Et je me dis quelle belle période on vit. Alors bon, le théâtre, il est encore un peu à la traîne, mais on y travaille. Mais en tout cas, la poésie, elle est vraiment revenue montrer, en fait, qu'elle était un genre littéraire. Même si je pense qu'il est bientôt temps qu'on explose en fait ces principes de genre littéraire, mais on en a encore un peu besoin pour que ça existe, nommer, exister, bababam. Mais je veux dire, c'est un des styles d'écriture en fait qui va pouvoir raccrocher les wagons de certaines personnes qui auraient été traumatisées en fait par des romans ou des écritures ou des mémoires ou des choses dont on a essayé de les gaver. Parce qu'il y a un vers, parce qu'il y a un endroit d'écriture qui va tout de suite en fait saisir. Et cet endroit-là de... Ah, ça, je veux le garder, je veux l'écrire, je veux le noter quelque part, le transmettre, le dire à quelqu'un d'autre. C'est super beau, ça.
Oui, oui, enfin, il y a beaucoup de préjugés par rapport à la poésie, en fait, malheureusement. Je ne saurais pas dire d'où ils viennent exactement, mais je pense que aujourd'hui, si on arrive à trouver de l'intérêt dans la chanson, dans le rap, etc., on peut s'intéresser à la poésie de la même manière. Finalement, c'est pas... La différence n'est pas énorme, surtout avec la poésie contemporaine. C'est des problématiques qui nous concernent, qui parlent de nous aujourd'hui, un instant T, qui sont d'une grande musicalité aussi. Ça dépend des textes, mais oui, enfin, c'est de la musique, des mots est travaillé aussi. Et donc, il y a aussi l'essor de la punchline en poésie aussi. Donc, comme dans n'importe quel texte de rap, finalement. Comme tu dis, on peut les noter, on peut lire par petits bouts, on peut même déchirer des pages. Moi, une des premières rencontres à laquelle j'ai été invitée, c'était des jeunes étudiantes à la fac de Lyon qui avaient organisé une lecture-rencontre. Et en fait, elles avaient acheté mon livre, et elles avaient déchiré toutes les pages, et les avaient accrochées chez elles, dans le lieu aussi où elles m'avaient invitée. Elles avaient souligné, surligné au stabilo des passages qui leur plaisaient. Et j'ai trouvé ça génial de... ce rapport au livre, ce rapport au texte, c'est pas juste un objet qui va rester comme ça figé. En fait, elles en ont fait ce qu'elles voulaient, elles ont découpé des bouts. Enfin, je trouve ça merveilleux que le livre vive comme ça aussi.
Oui, et qu'il puisse être démantelé. Oui. Il y a ce côté de se réapproprier en fait des paroles que toi tu as écrites pour toi, pour être lues, pour n'importe quelle raison en fait, mais de se dire moi ces deux petites phrases là en fait elles veulent dire, elles me parlent autrement et je me les approprie. Je les prends pour moi et je les donne à ma façon. Je les note comme un réconfort, comme un talisman, comme n'importe quoi. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant la manière dont les mots peuvent vraiment être réparateurs, accompagnants, boostants. Enfin, il peut y avoir plein de significations en fait grâce à vos talents, vos écritures.
Oui, complètement. Enfin, moi, en tant que lectrice, je le fais aussi. Hein. Enfin, quand on lit. Enfin, moi je lis aussi avec impolitesse. C'est que, ok, toi t'as écrit ça dans ce contexte, t'as voulu dire ça. Moi je m'en fous. Moi ça fait résonner ça. Moi ça me renvoie à ça. Moi je le lis avec mon vécu à moi, avec mon corps en fait. Et c'est aussi une certaine liberté que je me suis permise avec des écrits masculins par exemple, où voilà, on va essayer de me dire ça et finalement, ben non, moi je le comprends comme ça et je l'adapte à mon vécu à moi et à ma manière de comprendre et de voir la vie. Et voilà, je vais l'adapter, adopter.
Bon, on tourne autour du pot depuis presque 40 minutes. Moi, j'ai envie de t'entendre lire okay. Poésie. Hein. C'est mon moment, c'est ma conversation. Tu as évidemment carte blanche sur le passage de ton choix. Il y a énormément de passages que j'ai adorés, donc je suis sûre qu'il y en a au moins un que tu sélectionneras.
Mais comme tu as particulièrement parlé de « Embrasser avec la langue »,
ouais.
Je vais lire des extraits de cet ensemble-là. Okay. Mais je vais aussi lire 2-3 textes courts des livres précédents. Donc, je vais commencer par un texte paru dans mon premier livre, 20 poèmes et des poussières. Et le texte s'appelle « Amour solitaire 2.0 ». Toutes les nuits cet hiver, les doigts couverts de meurtrissures, nous déposions des baisers à la sauvette sur les commissures du clavier. Alt, commande, Q. Ainsi nous faisions l'amour, chacun de son côté, et les fenêtres claquées sur les écrans interposés. Un deuxième tout aussi court, qui est paru dans Latex, donc mon deuxième livre paru en 2017, et qui s'appelle, j'hésite entre deux, Printemps ou féminisme. Printemps ou féminisme ? Printemps.
Bon, ben, ce seront les deux. Hein,
alors, on va voter à main levée. Qui veut printemps ? Levez la main. 1, 2, 3, 4. Qui veut féminisme ? 1, 2, 3, 4. Oh non ! 5, 6, allez ! Féminisme a gagné.
Yes !
Féminisme. Longtemps, j'ai cru avoir à l'intérieur un sexe d'homme. Il s'est avéré... par la suite, à coup d'échographie et de déconstruction, que j'avais mieux, des ovaires bien accrochés et toutes les couilles à mes pieds. Depuis, je regrette toutes les fois où j'ai fait semblant de m'intéresser à la conversation d'un homme uniquement pour coucher avec.
Bim.
Zbra. Ensuite, mon troisième livre intitulé « Transport commun » paru en 2019. Pareil, je vais vous lire un petit texte qui s'appelle « Assurance » et c'est encore autre chose. La sécurité sociale et l'assurance que le peuple ne coupera pas de tête de sitôt, pensais-je en sirotant du haut de ma terrasse une haut garden agrumes. Et le quatrième s'appelle « L'eau du bain » et il est paru aux éditions Supernova. Et je vais vous lire 3 petits extraits. Il est un peu différent, il s'agit d'aphorismes sur la maternité, sur le fait d'être fille d'une femme et mère d'une fille. Et donc, une des 2 éditrices qui m'ont publié est présente dans la salle. Je pense à la naissance comme à la mue. L'enfant, couvert d'une peau enfin assez épaisse pour survivre, rejette l'ancienne sans ménagement, la mère. la maternité, c'est la peau poursuivant le serpent pour lui demander des comptes, de la gratitude et de ne pas oublier son écharpe. L'épuisement, ce n'est pas la fatigue, l'épuisement. C'est la fuite de toute substance, de la tête par les pieds qui fait flaque entre les jambes, comme si dans un accès de démence, l'on eût pissé son âme. Je suis épuisée. Je survole, hein, je cours. Et donc mon cinquième livre, enfin il y a plus de textes par livre dans Mine de Rien, si jamais ça vous intéresse. Donc dans mon cinquième livre est intitulé Les Quatrains de l'All Inclusive, et il est paru chez le Castor Astral, donc c'est ma première rencontre avec cette maison. Et je vais vous lire le 19e quatrain. Et donc ce ne sont pas des quatrains classiques, mais des poèmes en quatre tableaux numérotés de 1 à 4. 19e quatrain de l'All Inclusive. 1. Chaque note de musique allait loger comme une balle dans mes doigts, mes orteils, mes tempes, mes flancs et toutes mes extrémités. Je me suis crue musicienne quand j'étais danseuse. 2. La guitare n'a pas voulu de moi, ni le piano. L'amour, lui, m'a offert pour demeure ses palais, a fait sien mon corps, sans me poser des questions, sans me demander mes diplômes. 3. Danser n'est pas sans douleur, et je ne parle pas uniquement du monstre qui me ronge tous les mois, me plie en deux, m'isole, me prive de piscine. 4. La musique, je ne la goûte que seule, et ici, je suis trop entourée de qui je suis la sœur, de qui je suis le frère, de qui je suis la moitié, ou carrément tout, et tous ceux qui veulent l'ambre de ma peau dans un système donné. Et maintenant, on attaque, embrasser avec la langue. Page 137. Est-ce que je vois quelqu'un qui feuillette le livre? Angoisse fossile. Les amantes, pareilles aux amants, demandent si. À tout hasard, sait-on jamais? À défaut d'être premier, unique ou meilleur coup, est-elle, est-il le dernier? Avec des mots, je ne sais rien. Avec un derme, un souffle, tout me revient d'un coup. Je revis, je revois leurs gestes premiers, les manières de l'enfance, la saveur de vanille et la panique de maman qui ne reviendra plus mais qui revient chaque soir et toujours la panique et le drame avorté. Avec des mots, je ne dis rien. Avec les mains, la cuisse accueillante, le gigot qui gigote, l'œil ouvert, je donne ce que j'ai à donner, je répare, j'absous, comme le font les très vieux enfants, puis je dors comme un loir dans mon corps qui pèse un drame. Terrasse. Les branches suivent en variant les fils qui leur sont tendus. Les racines ont pris la forme du pot, les feuilles. Cette plante a-t-elle connu le sol immense et sauvage et sans clôture, ou ses rêves n'ont-ils vu que voiture depuis le balcon? Mesure-t-elle son soleil et boit-elle son goutte à goutte avec gratitude, ou crache-t-elle sur les billes d'argile qui drainent son pus souterrain? Je ne sais plus ce que j'ai corné. Un avant-dernier puis un dernier. Plat du jour. Les conversations ont un goût de chlore, de manque, de friture de poisson. Ma sœur allait son fils. Je me demande comment un si petit peu a-t-il pu faire un petit peu de lait. Pour noyer ton absence, je pense à ton pulvère, Olive, tapis comme une raie dans mon armoire à Paris, à ton odeur endormie entre ses mailles. Je ne l'ai pas pris. Trop lourd pour une valise et l'avion qui me porte loin de toi pèse déjà 66 tonnes. Tu veux manger quoi, Rim? Comme si ce n'était pas assez d'être arraché à toi, il faut que je donne mon avis sur le menu. Couscous poulet ou gratin aux pommes de terre. Parfois les autres ne savent pas quel crime ont-ils sur les bras. Et le dernier, qui est tout près de mon cœur, rocher. Je ne veux plus voir ton rocher, dit son ongle noir qui me désigne, me déleste de ma chair, me destitue. Je me suis rassemblée, poil par poil, petite parcelle de terre et de marée. J'ai décidé de mon toit. S'il fallait vivre dans une prison, je décorerais cette prison de poires, d'oiseaux en cage et de mobiles suspendus, de miroirs sans teint. Je danserais ma prison. Je la posséderais autant qu'elle me possède. Peindrais des étoiles à son ciel sans fin. Je me regarderais dans les yeux. Merci.
Merci beaucoup, Rim, pour ce magnifique moment. C'était parfait.
Mais c'est un titre de livre, ça, non?
Ben, c'est parti. Alors, heureuse? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Rim Battal à l'occasion de la parution de son ouvrage Mine de rien aux éditions Le Castor Astral. La Franchie Podcast, c'est Soizic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec La Franchie Podcast.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.